pourrait faire des bruits d'animaux aussi dans le générique.
Miaou.
Mmh. Un chien, un cochon.
Il fait les oiseaux, tu fais bien.
Du verre dans les oreilles.
Je pense qu'on aura un super générique.
Donc du coup, on s'est dit que ce serait mieux en allant dans les fermes.
Depuis maintenant un an et demi, Olivier Clisson, 36 ans, est installé en tant que paysan boulanger à Parthenay de Bretagne, dans la métropole rennaise.
Oui, paysan boulanger, et non pas artisan boulanger. En effet, Olivier accompagne le vivant des champs jusqu'au consommateur.
Culture en biodynamie, pain au levain, cuisson au feu de bois, les pains d'Olivier ne sont vraiment pas comme les autres.
Donc là, il faut que je chauffe l'eau parce que tout l'objectif, c'est d'obtenir une pâte entre 23 et 25 degrés. Et comme on ne peut pas jouer sur la température extérieure, en fait, on joue sur la température de l'eau pour qu'on ait au final une pâte à 24 degrés, quoi.
Donc l'eau qui est en train de chauffer là, c'est pour verser sur ta pâte.
Sur le levain, le sel, et puis je rajouterai la farine par-dessus après. Ouais.
Et alors le levain, c'est quoi exactement?
Bien, à l'origine, c'est uniquement de la farine, de l'eau. Souvent, on met soit une goutte de miel, soit un peu de yaourt, soit des épluchures de pommes, ou quelque chose pour lancer des ferments lactiques. En fait, il y en a peu donc chez les paysans boulangers qui font du levain, c'est-à-dire qu'ils récupèrent un levain chez un autre, et puis après ils le conservent, quoi, ils le maintiennent une fois sur l'autre. Ils gardent un bout de pâte.
Donc toi, c'est ce que tu fais, ouais, c'est ton levain, mais que tu conserves
Non, moi je l'ai récupéré, donc c'est celui qui m'a formé initialement. Donc c'est un levain, je sais pas qui l'a fait, je sais pas quelle est l'origine. Il y a des mythologies sur l'origine des levains aussi, c'est assez drôle. Il faut être assez précis sur les quantités. Quantité d'eau, quantité de farine, température. Pour avoir une bonne consistance de pâte et à la bonne température. Le mélange et le pétrissage, c'est un moment vachement important, quoi. Donc, on n'a pas trop envie de donner ça à des machines. Pour ma part, hein. Et autant je mécanise la récolte du blé, parce que je ne vais pas ramasser mon blé à la faux, autant je mécanise le labour, autant je mécanise le moulin, c'est un moteur électrique quand même. Autant le mélange, le pétissage, tant que je peux le faire à la main, je le ferai, quoi. Je dis pas qu'un jour j'ai mal au dos, que je vieillisse, qu'il va falloir quand même continuer à gagner son pain. Il faudra acheter un moulin, un pétrin.
Et pétrir, c'est quelque chose que tu aimes bien faire?
Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est un moment super important. Ouais. On recrée quelque chose en fait, on mélange et on crée quelque chose de nouveau. Donc ça demande la concentration aussi, hein, si on veut faire ça bien. On dit bien pétri de bonnes intentions. Donc la pâte, il faut l'homogénéiser, mais il faut lui donner de l'air aussi. Quoi. Les ferments, ils respirent, ils ont besoin d'oxygène. En fait, nous, on fait pas grand-chose. On fait tout pour aider les ferments, quoi. Donc, faut se mettre à leur place, quoi. Il leur faut de l'eau, la chaleur, une bonne nourriture, la farine.
Et c'est quand même toi qui fais les proportions.
Voilà. On met en œuvre, quoi, un chef d'orchestre, un peu. On accompagne, on élève, on pourrait dire. Donne de l'oxygène et puis on peut sentir déjà là ça travaille à bloc là depuis que j'ai mis l'eau sur le levain, les ferments ils se régalent, quoi. Ils ont eu de l'eau chaude, de la farine, Avec la pâte, là, vous allez voir tout à l'heure, toutes les 5 minutes, elle est quasiment différente. Elle a une texture différente.
Alors là, tu viens d'étaler ta pâte sur la table.
Voilà, donc ça s'est versé sur la table. Et puis là, on fait des repliages, hein, tout doux. Pour essayer de lui donner une sorte d'unité, de tension. Là, on a quasiment terminé. Encore quelques petits coups pour donner une belle forme ronde. Et comme son nom l'indique, le boulanger, il fait une boule. Et là, c'est l'idée qu'on retrouve ici, quoi. De faire une boule, de faire une unité, quoi. Et puis, après, on va la laisser donc reposer dans les bacs en 3 heures.
Et c'est des gestes quand même très répétitifs, enfin, toujours les mêmes gestes pour faire le pain. On lasse pas de faire ces gestes-là tous les jours.
Alors je fais pas tous les jours du pain justement. C'est ça effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'équilibre qualité-quantité. Moi parce que je produis mon blé, ma farine me revient pas cher du tout. Et donc j'ai une marge beaucoup plus grande qu'un boulanger. Même si on vend nos pains pas très cher en fait, moins cher qu'eux, mais il nous reste quand même une marge plus importante. Donc ça nous permet de faire moins de quantité. Donc ça nous permet de travailler à la main. Moi j'en veux pas au boulanger si tu veux de plus travailler à la main, c'est parce que quand il faut faire 4, 5, 600 kilos par semaine, tu peux pas quoi. Tu pourrais pas faire ça. Donc, moi c'est maximum 200 kilos, c'est ma limite. Hein. Là comme j'ai augmenté depuis septembre, j'arrive aux 200 kilos là, en ce moment, faut que je m'y habitue quoi, je commence à le sentir un peu. Donc je sais que je pourrais pas aller au-delà quoi. Et le four, pareil, il est très compliqué à gérer, il demande des efforts, etc. Vous verrez tout à l'heure. Je suis très content du résultat, mais c'est pareil, quoi. Je pourrais pas en faire 600 kilos là-dedans, quoi, dans la semaine. C'est trop fatigant, trop difficile, quoi. On va prendre la pâte, donc, qui a maintenant presque 4 heures. De nouveau la balance, les raclettes, voilà, il faut pas grand chose. Donc je prépare les panetons, je farine le fond pour éviter que ça cope, parce qu'il y a encore 3 heures de levée là dans les panetons. Différentes formes, des longs, des ronds, des moulés. Les gens qui aiment bien les pains moulés, ça fait des tartines plus régulières. Donc le façonnage, bah, ça permet donc de prendre des morceaux de pâte, de les peser pour faire les poids des pains nécessaires. La pâte elle se tient un petit peu déjà, vous voyez tout le... Ça là, c'est l'élasticité, c'est la tenue de la pâte. Mais on va la resserrer. Et l'attendre pour faire une belle boule, quoi. C'est ça qui fait que le pain va se tenir, qui va être joli après. Avec le pain comme ça, le paysan boulanger, il part de la terre et il met de l'eau, il met de l'air et il arrive au feu et il cuit le pain. On travaille avec les quatre éléments un peu et on essaie de, suivant Aristote, on joue avec ces éléments là quoi. On chauffe le four, on enlève tout. On met le pain et on ferme la porte. Et donc c'est cuit par les briques, par la chaleur accumulée par les briques. C'est pas cuit directement par la flamme. Et ce qui donne une chaleur douce, une chaleur descendante aussi on dit. Donc, au début on est à 280 normalement. À la fin de la cuisson on est peut-être à 150 quoi.
Tu repères la température de ton four aux couleurs de la pierre du devant en fait.
Exactement, ouais, j'ai pas de thermomètre, c'est uniquement... la brique elle est blanche de la dernière chauffe. Mais ça va renoircir avec la fumée du feu. Et ça va reblanchir par la chaleur. Ça fait 10 ans que je cherche à m'installer, quoi. C'est un truc qui... Puis ça m'a pas lâché, quoi. J'ai eu beau mettre ça de côté, ça revenait toujours. Non, c'est... La base, c'est m'occuper du vivant, quoi. L'accompagner, parce que de toute façon, on ne pourra jamais le maîtriser comme l'homme a cru qu'il pouvait faire. Mais l'accompagner, là, par contre, tu peux t'essayer de le comprendre, et puis tu l'accompagnes, voire tu le... on peut le booster, on peut le être là au bon moment, et puis l'entraîner un peu plus, l'orienter, et jouer avec ça, ça, c'est fascinant, quoi. Donc quand je dis le vivant, c'est vraiment quelque chose qui est différent de la matière, quoi. Il y a des règles physiques, mais il y a sans doute d'autres règles dont certains chercheurs parlent aujourd'hui, qui sont plus liées à des dynamiques, quoi, des processus, et non pas uniquement de la matière, de la chimie, quoi. Des molécules, des trucs comme ça, non. Et donc, après, il y a une vision philosophique derrière, quoi. C'est la place de l'homme sur Terre, avec la nature, et non pas contre la nature, comme on a cru pouvoir faire. On ne pourra jamais assouvir la nature, ça c'est clair. Ça c'est le péché d'orgueil de l'humanité. Mais par contre, si on joue avec, à l'inverse, il ne faut pas être écolo-extrémiste qui prétendent que l'homme est extraterrestre et qu'il n'est là que pour détruire la nature et donc il faut l'éliminer. C'est pas vrai non plus. L'homme fait aussi entièrement partie de l'évolution de la Terre. Par contre, il faut accepter de travailler, d'être un peu humble devant la nature, quoi. Et à partir de là, on a des résultats extraordinaires, quoi. Quand on est vraiment conscient de ce qui peut se produire sur une parcelle, ce qui peut se produire sur une culture, sur un animal, sur une transformation de produit après-derrière, on a des résultats totalement extraordinaires. Et, j'avais mon gamin un jour qui m'a dit... Donc il me voyait enfourner l'année dernière, mes essais, tout ça... C'est le début. Donc il voyait la pâte un peu molle là, qu'on met au moment où on enfourne, et puis le pain qui ressort une heure après, cuit, ferme, coloré, avec une odeur, etc. Et il a dit, on dirait une chenille qui se transforme en papillon. Et c'est totalement vrai, quoi. J'aurais pas pu le trouver tout seul, mais c'est exactement ça. On est dans la cuisson du pain, c'est une... Tu amènes ton produit à un stade différent, quoi, un stade supérieur, si on peut dire ça, mais tu le métamorphoses, quoi. Et c'est exactement ça, une chenille qui se transforme au papillon, c'est le même être, mais il est complètement métamorphosé, quoi. La forme est complètement différente, et la fonction est différente après, mais c'est la même entité au départ, quoi. Et voilà, donc dans la transformation, il y a tous ces trucs-là qui ne sont que des phénomènes naturels, mais qu'on essaie de comprendre, de maîtriser, d'amplifier, de susciter. Voilà, c'est ça qui me passionne à la base, quoi. Donc tu vois, quand je travaille la pâte à la main, quand je m'occupe du feu, tous ces trucs-là, ça ressort. Et donc j'ai fini par comprendre, j'ai fait un bac scientifique. Donc le questionnement, effectivement, sur la vie, sur le monde, tout ça, ça m'a toujours un peu... toujours été là. Mais je me suis rendu compte, tu vois, à 18, 20 ans, t'as beau passer du temps à potasser des bouquins de physique, de chimie, de biochimie, il y a un moment, t'es frustré, quoi. Tu sens pas le truc, t'as une distance, c'est mort, quoi. Tu te retrouves dans les bibliothèques de fac, tout est mort, quoi. Quand t'es paysan, t'es constamment baigné dans des processus vivants. Tu regardes la lune le matin, tu regardes le temps qu'il va faire, t'es constamment dedans, donc c'est complètement différent, on a une approche différente. Et donc on ne travaille plus uniquement avec l'intellect, on travaille avec le cœur et avec les tripes, quoi, les mains. Et puis il y a un échange, quoi. Tu fais des choses, tu observes, donc c'est l'expérimentation, mais qu'on ne pourra pas faire en laboratoire, quoi. Donc je suis fini par comprendre, par par me dire que le savoir, il est dans les fermes aujourd'hui, quoi. Mais le savoir lié au vivant, il est malheureusement pas dans les labos de biochimie, quoi.
Passer la serpillère pour juste pour enlever les braises.
Voilà, parce qu'avec le roi ouvre, donc on arrive à enlever le plus gros. Bon, il y a des joints qui se défendent toujours un peu, surtout sur le tour là. Donc il y a des braises qui tombent dedans, un peu de cendre. Donc une serpillère bien humidifiée permet d'aller lécher tout le bord et de ramener tout ça devant, quoi. Je commence par les mouler en fond. On a les graines qui crépitent là. Moi, j'utilise et je veux absolument utiliser mes propres semences parce que, comme on les soigne très bien, notre culture, on pense, alors évidemment, ça serait, faudrait le prouver encore, mais nous, on n'a pas besoin de preuves, on observe, quoi, que la semence va être meilleure que si on doit racheter une autre, quoi. Ça se bonifie d'année en année, alors que dans les campagnes, les vendeurs de semences, les vendeurs de phyto vont dire aux agriculteurs, il faut que tu renouvelles ta semence, parce que sinon elle va perdre de sa faculté germinative, de sa... Et puis on peut se demander, dans une économie marchande, capitaliste, on peut se demander si les fabricants de semences n'ont pas intérêt à fabriquer des semences qui ne vont pas bien se comporter d'année en année, qui ont plutôt avoir tendance à dégénérer comme ça. Mais ça se comprend totalement dans une économie marchande. Si tout est basé sur les quantités vendues, il vaut mieux que la variété, au bout de 2 ans, le gars, il doit en racheter une. Si la production de semences est laissée à des privés, c'est normal qu'on arrive à ce genre de raisonnement-là et à ce genre de résultat-là. Et moi, je me mets tout à fait. Le gars, il a une mission, c'est de faire de l'argent pour faire tourner la boîte. Et ben, logiquement, scientifiquement, il vaut mieux produire des semences qui sont faibles, qui ont peu de vitalité, qui vont... germer la première année et pas la deuxième. Et en fait, c'est ce qui nous a amené, c'est ce qu'explique Jean-Pierre Berland de l'INRA, ça nous a amené aux OGM, ça. Et à l'OGM, notamment, Terminator, où ils ont carrément introduit un gène qui stérilise, pas donc le grain qui lui va germer, mais sa récolte. Incapacité technique de ressemer un grain de maïs OGM Terminator, qui aujourd'hui a été abandonné, hein. Mais vu le tollé dans la société civile que ça a fait. Mais c'était ça, la logique pour eux, donc de Monsanto, c'était ben comment forcer les agriculteurs à ce qu'ils nous rachètent la semence chaque année pour qu'on gagne plus d'argent, ben, c'est de stériliser la récolte. Il faut arrêter cette logique-là, et ce qui est pas en train de se passer là, avec la libéralisation de la recherche, des universités, mais la recherche doit être totalement libre de la sphère économique. C'est c'est dans sa nature même, quoi. Les chercheurs, la recherche, l'éducation, tous ces secteurs-là, la culture, ça doit être totalement libre. Donc, il ne faut surtout pas les lier au monde de l'entreprise. C'est deux objectifs différents. Et c'est là où on va droit dans le mur, de manière plus générale, quoi, que les aspects alimentaires. C'est dans cette conception-là de la société, du comment les choses doivent tourner. Il faut absolument leur donner toute la liberté, comme on a fait depuis très longtemps, ces dernières années, où on mélange tout Et on lit les choses et on arrive à des catastrophes OGM, des catastrophes environnementales qui nous pendent au nez, là, chaque année, de manière de plus en plus accélérée. C'est, à mon avis, le problème à la base, il est là, quoi. Et donc, il faut une recherche publique, des fonds publics, des chercheurs qui sont totalement libres de décider sur quoi ils veulent chercher, en réponse à des questions de société, en plus, parce qu'aujourd'hui, ils répondent pas à des questions de société, ils répondent à des questions de société économique, quoi, de SARL. Et il n'y a que dans une recherche fondamentale qu'on est arrivé à faire progresser la civilisation, quoi. C'est comme un artiste, quoi. Faut le laisser créer totalement librement. Sinon, on arrive à de la daube, la musique de la Starac. Quand on veut répondre à un pseudo-besoin que les gens réclament. Voilà, c'est des financiers qui disent, voilà, ça va marcher, quoi. Ça peut marcher, mais tout ça, c'est trafiqué. Les vraies perles, c'est quand le mec est tout seul dans son coin, totalement libre, et qui fait un truc qui porte, quoi. C'est l'essence même de la culture, quoi. De nous surprendre, de nous émerveiller sur des choses nouvelles, de nous orienter dans un coin qu'on n'a jamais été voir, c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Et eux aussi, ils sont ficelés. Il y avait un bon système, hein, qui était le système des intermittents du spectacle, en termes de... Vous avez une sorte de matelas, quoi, de sécurité financière pour continuer à travailler. Et voilà, on est en train de foutre ça en l'air maintenant, enfin depuis quelques années déjà. Et moi, si tu veux qu'il y ait une activité économique, je suis tout à fait d'accord, et c'est un faux discours qu'on met trop en avant, ça, de la part des patrons. C'est pas vrai, quand tu as une activité économique, c'est normal qu'il y a de l'argent qui circule, il y a de l'argent qui rentre. Il est normal qu'on en donne une partie, justement, pour des activités qui, par nature, ne seront jamais marchandes, comme la culture, ou la recherche, ou l'éducation, ou la santé. Et c'est tout à fait normal. Et parce que, de toute façon, ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Exprès pour vous, hein, je fais pas ça à chaque fois. si, ouais, le premier, ouais, je fais ça. Ah, c'est les cuits. Qui sonne, quoi. Quand il est pas assez cuit, surtout en dessous, là, avec ce genre de briques, c'est le risque. Ouais, celui-là, il sonne bien. Il y en avait un, je sais pas si t'as remarqué, qui était le bruit moins sec, plus amorti. Ça veut dire que c'est un petit peu moins cuit, quoi. Tiens, c'était celui-là, là. C'est la différence. Après, c'est une histoire de goût, mais moi, ça me donne une idée de ma cuisson, quoi. Voilà le papillon, donc.
Attends,
3 pains de sésame, il me faut un pain d'un kilo et 500 grammes, un pain de 500 grammes. Et 2 pains en graines.
Et Olivier n'est pas le seul. Un peu partout en France, des paysans boulangers s'installent. N'hésitez pas à aller goûter leur pain et voir comment ils le font. Franchement, ça vaut le détour.
Un grand merci à Olivier, à la FRC Van Bretagne qui nous a permis de le rencontrer, à Rennes Métropole et aux consommateurs du panier de Saint-Gilles que vous avez pu entendre à la fin de l'épisode. L'épisode que vous venez d'entendre a été entièrement brodé à la main et réalisé avec des techniques artisanales par Goulven Maréchal et Alex Illis.
Nous tenons à signaler qu'aucun paysan n'a été maltraité durant ce tournage.
Et si vous voulez en savoir plus sur notre projet, consulter des photos, des épisodes inédits et des bonus réalisés dans d'autres exploitations, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
www.duverdanslesoreilles.fr.